retrouve ici dans un isoloir. Il est 19h47. Je suis en train de glisser un bulletin non dans mon enveloppe que je vais refermer. Voilà, et je vais ensuite aller le déposer dans l'urne. Je range tout le reste. En plus, je collectionne sur les enveloppes des bulletins. Ça m'amuse. Voilà, et je vais voter non. Et voilà, je voulais vous dire ça. Je vote en direct. Je crois que je vais devoir. Pardon.
Vous avez une pièce d'identité.
Ah, voilà, il me faut ma pièce d'identité, oui. Attendez, elle est ici.
Voilà, 440. Hein.
Voilà. Oui, c'est ça.
Oui. À voter.
Entendu.
C'est là, oui.
40.
Voilà.
Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup.
N'oubliez pas le parrain.
Ah oui, merci bien. Au revoir, messieurs.
Merci.
Voilà, c'est fait. J'ai voté.
Oui, allez-y, Jean-Michel. Eh bien, formidable, je reviens de voter. Il est presque 20h, je marche, je reviens. On m'a donc bien seriné que le nom devrait l'emporter. J'ai voté oui. J'ai bien entendu Beauvais dire une connerie. Je suis désolé, il dit aussi des conneries, Beauvais. Il faudrait peut-être s'en rendre compte. Même Daniel Dermet, si c'est possible. Ça sera un nom festif. Un nom festif, oui. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si ce n'est sans doute une bonne bouteille, des ripailles, etc. Mais je dois savoir qui est invité à ce nom festif. Est-ce que ce sont tous ceux qui ont participé à la victoire du nom ou pas? Là, je ne comprendrais pas, parce que s'ils peuvent fêter vraiment ce nom, c'est grâce aussi à Pasqua, à Le Pen, à De Villiers, à Dupont-Aignan, à Christine Boutin, au comte de Paris, et même aussi à ce grand patron très libéral, très peu social, Jacques Calvet, ancien patron de Peugeot, qui vote non, lui aussi. Et comme quoi, Besançon, c'est gouré aussi, il a dit une connerie. Il ne voyait personne du grand capital pouvant voter non. Bon, alors, c'est fini les conneries, ou une fois que vous avez foutu le bordel ambiant, vous pensez que quelqu'un va ramasser les miettes? Mais qui? Qui ramassera de miettes de ce non festif? Bon, moi je vais manger, mais je vais voir pour le festif. Hein.
29 mai à 21h23.
Il y a quelques semaines, j'ai écouté une émission, pas chez vous, mais sur France Culture, sur Jean Jaurès, et j'écoutais la fin de sa vie, où toute une invective était faite contre lui, on même incitait à l'assassinat contre sa personne, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il était pour la paix. Il voulait pas que les gens se tuent sur cette terre d'Europe. Et quelques années plus tard, eh bien, on a suivi ce que l'on a fait, ce qu'il a dit, puisque l'Europe s'est faite dans la paix. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se battent pour que cette guerre qui s'est déplacée au niveau économique, qui est inscrite dans cette constitution, parce que libre concurrence, ça veut dire guerre économique entre les entreprises, donc ça veut dire des victimes, des chômeurs, qui parfois retrouvent du boulot, comme moi, et d'autres qui parfois n'en retrouveront jamais. Donc voilà, moi je suis plutôt pour le non, pas pour le non contre l'Europe, mais contre le nom, la guerre économique, où il y a des victimes qui seront sans cesse plus en plus nombreuses, et on doit pouvoir faire économiquement autre chose que ce que l'on fait à l'heure actuelle, comme on a fait autre chose au niveau de l'Europe. On a fait la collaboration, on a fait l'entraide, on a fait ensemble l'Europe, et ben économiquement, ben, il faudrait peut-être qu'on invente quelque chose qui s'appelle, je sais pas, mais surtout pas la libre concurrence. Allez, au revoir. C'était Jean-François Delain.
Depuis ce matin donc, 42 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes et ce soir à 2h maintenant des premiers résultats, des premières estimations, le suspense est entier. Tout de suite, c'est scène de vote.
Comme d'habitude, c'est à
Saran. Le président de la République, Jacques Chirac, qui a voté à Saran, en Corrèze, aux côtés de son épouse, Bernadette Chirac, conseillère générale du canton.
Accompagné de son épouse Bernadette, il est apparu plutôt décontracté.
Donc le président de la République, on l'a vu, est allé voter ce matin avec Bernadette Chirac, son épouse, à Saran, en Corrèze.
Des sourires, mais pas de commentaires.
Des regards qui sont tournés, vous l'entendez, vers les acteurs, vers les éternels acteurs, vers ces cabotins éternels que les médias nous montrent à longueur de temps. Mais les vrais acteurs, c'est-à-dire le peuple, vous avez vu comme le mot peuple est revenu ces jours derniers, eh bien le peuple était absolument absent hier soir de la soirée électorale. On ne vous a pas vu, on ne s'est pas vu du tout, du tout, du tout. On a vu les éternels acteurs se succéder sous les projecteurs, sous les maquillages, sous les propos maquillés et apprêtés. D'où l'importance aujourd'hui, en tout cas, mais oui, de cet Europondeur de la Bastille-Gissuis, où pendant toute la journée d'hier, et puis aussi ce matin, vous avez laissé, heure par heure, des messages, vos réflexions, vos émotions, vos colères, vos rages, vos plaisirs, votre enthousiasme. C'est évidemment un grand jour, c'est un grand moment. Ça va de l'idée d'une insurrection démocratique à l'idée d'une prise de la Bastille ultra-libérale. Le jour d'après, sur le répondeur de la Bastille, j'y suis jusqu'à 18h sur Inter.
À Nolémine, dans le Pas-de-Calais, mon grand-père paternel était mineur de fonds. Avant 1939, il devient porion. Gréviste en 1941, sous l'occupation allemande, un ingénieur imposa à ses chefs d'équipe, donc à mon grand-père, une production accélérée et collaboratrice de charbon. Mon grand-père colla sur la gueule de cet ingénieur un magnifique coup de poing. Le père de mon grand-père était mort dans les tranchées en 1915, sous les coups de Krupp et du général Mangin. Alors, collaborer, c'était se chier dessus. L'ingénieur cassa mon grand-père en le faisant redevenir simple mineur de fonds. S'il est causé à 70%, il est mort alcoolique dans les années 80. Ma grand-mère maternelle, orpheline de guerre, élevée chez les sœurs à Roubaix, humiliée, anticléricale, rentre à la SFIO, devient un grognard de la Troisième République. Toute sa vie d'institutrice a été une lutte contre les facilités et l'arrogance du puissant. La justice, chez elle, n'était pas qu'un mot, mais une préoccupation quotidienne. Elle était aussi engagée dans la réconciliation franco-allemande et pour une Europe de paix et sociale. Mon grand-père paternel, en 1941, devient flic pour ne pas faire le STO. Résistant de la première heure, gaulliste de gauche, il a fabriqué de faux papiers et faisait passer entre les zones et contrôles des hommes de l'ombre, l'ombre dont il est devenu une part invisible. Les dirigeants socialistes contemporains au gouvernement ou ailleurs ont fait retourner plusieurs fois dans leur tombe mes grands-parents. Et ça fait trop longtemps que ces privilégiés idéologues avaient confisqué la parole et avaient chié sur la tête de Jaurès, Blum, Jean Zé et celle de mes grands-parents disparus, croyait-on. Car debout les morts, depuis longtemps, leur mémoire guide ma main. Et là, on leur a retourné une baffe monstrueuse. Et oui, Dominique, Bernard, François, Jack et compagnie, la prochaine fois que vous brandissez l'ombre de Jaurès, la mémoire de Blum, il ne faudra pas oublier les ombres qui les accompagnent. J'ai voté à plusieurs. Ma voix s'est confondue avec celle d'André, Eva, Louis, Pierre et ma mère Claude. Salut.
29 mai à 22h03.
Putain, je viens d'écouter sur une autoradio, là. C'est le nom alors qui a gagné. Oh, putain, je suis content. 55-45, c'était France Inter, là. J'ai aussi envoyé un SMS à mon fils aîné qui va transmettre à son frère. Il y a longtemps que je n'avais pas participé à une victoire. Voilà. Mais je suis content parce que c'était vraiment important. Mais il faut continuer, quoi. C'est-à-dire, il faut pas s'arrêter là. Il faut mettre en place autre chose, quoi. Voilà. Bon. Je pense que t'es content aussi, Daniel, et voilà. Putain, quand tu m'as fait il y a une heure, j'avais une trouille. J'ai cru que c'était foutu. Bon, mais salut.
29 mai à 22h04.
Super, on a gagné! On les a niqués, là, les partisans du oui, tous les isotoralistes de merde, là! Allez, basta! On a gagné! On a gagné! Ciao!
On a gagné, on a gagné, on a gagné. En effet, ça pourrait se passer de commentaire, ce message. Mais finalement, j'ai envie d'en rajouter un petit. Gerhard Schröder, qui a perdu lors des dernières élections en Allemagne, a immédiatement remis son mandat aux mains des électeurs, qui se déplaceront à nouveau à la mi-septembre pour élire à nouveau ou conserver leur chancelier. Monsieur Chirac et Monsieur Raffarin viennent d'encaisser leur quatrième revers électoral consécutif. Si l'avenir de notre Jean-Pierre Poitevin ne fait pas de doute, vu qu'il devrait être incessamment sous peu viré de Matignon à coups de pied dans le cul, qu'en est-il pour l'actuel propriétaire de l'Élysée? Oui, je dis bien propriétaire, parce que à ce niveau-là d'indécence et de moquerie envers les électeurs, c'est vraiment le roi qui est élu au suffrage universel. Bon, allez, on y croit, et puis on va quand même pas se gâcher la soirée. Ça fait tellement plaisir de voir un peuple qui vit. Allez, salut tout le monde. Au revoir.
29 mai à 22h08.
Bravo tous, bravo Daniel Mermet. Bon, vous avez dit merde à l'Europe. Bien, j'en suis navré et mes petits-enfants vont en être absolument navrés. La plus grande a 12 ans, le second 10 ans, les autres sont plus petits et n'en ont rien à cirer pour le moment. Mais ils vont être très déçus. Ils espéraient pouvoir vivre libre et heureux en Europe et pouvoir y faire leur vie. Bon, je sais pas, où on va, là. Vraiment, c'est triste. Triste. Ciao.
29 mai à 22h30.
Oui, bonsoir Daniel. Ça y est, on les a eus. La France rebelle, la France turbulente, la France qui souffre. La France exploitée, elle s'est exprimée. Courage à tous, poursuivons le combat. C'était Louise de Nice.
Il est très probable que le président de la République interviendrait, surtout si le résultat est...
Rumeur d'un dimanche très particulier en France, là en l'occurrence à Marseille. Les jetables triomphent des notables, les prolos triomphent des bobos, les boyaux triomphent des cerveaux. C'est vrai que dans cette affaire, il faut absolument remercier le mépris qui a beaucoup fait pour le nom. Cette victoire doit beaucoup à l'arrogance, à la suffisance, au mépris, au chantage d'une élite intello, politico-médiatique qui, dans son autisme hautain, a repris la vieille ancienne des populations dangereuses ou des salopards en casquette, comme on appelait les ouvriers en 1936. C'est ce même apartheid social, ce même racisme social qui a transpiré consciemment ou inconsciemment à travers bon nombre de commentaires et de pressions et de chantages qui ont précédé ce jour du 29 mai, mais auxquels évidemment les Français, le peuple, comme on ose dire à nouveau, a été particulièrement sensible. Il a été blessé dans sa profondeur, dans son âme très profonde. Et puis évidemment, ça n'a pas manqué de réveiller une évidence qui ne s'est jamais tout à fait endormie, c'est celle d'une fameuse fracture sociale où depuis 10 ans, 20 ans, le chômage augmente, la souffrance sociale augmente, l'insécurité sociale augmente et ça ne pouvait pas évidemment être sans réponse, sans réplique. Et c'est ce que nous avons entendu et vu hier, et certains de nous y ont participé.
Bonsoir tout le monde, enfin oui je dis bonsoir parce qu'il est 22h01, là on est dimanche, et puis vient de s'afficher le nom gagnant. Alors ben merci des millions de fois à tous. tous les Français du nom, à la France du nom. Maintenant, on a de nouveau un espoir, en tout cas ici à Bruxelles, où on n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer de manière démocratique, on n'a pas eu le droit de voter. Et ben maintenant, on se sent enfin entendu et on est vraiment super content. Encore merci à la France du nom et il faut rester mobilisé. Voilà, à bientôt, c'était Patsy de Bruxelles.
Alors l'Europe libérale, elle a fait pchit.
Salut à tous, il est 10h, et bien voilà, nous avons dit non, mais nous n'avons pas dit non à l'Europe, nous avons dit non à cette Europe-là. Alors à méditer, messieurs de la droite et aussi de la gauche qui pensaient oui. Salut, à bientôt.
29 mai à 22h09.
Youpi ! On les a eu tous, toute cette clique de merde, avec Ségolène Royal qui vient de dire que c'est une défaite. Bon, allez, ciao. Bravo pour votre boulot.
29 mai à 22h41.
Oui, ben voilà, un petit reportable pour l'euro fondeur de la Valchie d'Issui. Je viens du 18e, bon, pas celui du gros château sur la colline, mais celui populaire, plein d'ouvriers, plein d'immigrés, plein d'étrangers, plein de PD, plein de drogués, enfin, un quartier sympa, vivant, et puis ben là, je suis à la Bastille, et puis ben ça arrive, ça a plu, c'est sympa. Voilà, donc Jackie, du 18e, populaire et sympathique, qui a dit non à ce traité constitutionnel.
29 mai à 22h48.
Bonjour, et bien moi je suis une pro-européenne et pourtant j'ai voté non. J'ai voté non parce que l'Europe qu'on me propose ne me convient pas. Parce que je suis pas pour une Europe libérale, je suis pour une Europe sociale. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai voté non. Et je suis pas non plus pro-le-péniste. Loin de là. J'ai voté contre Le Pen chaque fois que j'ai pu. Mais pourtant j'ai voté non à la Constitution. Voilà. Une Europe sociale, c'est tout ce que je veux. Une Europe où on tienne compte des gens, des simples citoyens. Voilà. Au revoir.
Daniel, le non a gagné hier soir et nous avons assisté à une triple défaite, une triple déconfiture. La première, celle du libéralisme, du capitalisme sauvage. Tout le monde en convient. La deuxième, celle de la gauche oui-ouiste, la gauche résignée, la gauche dépolitisée. Et enfin, la dernière défaite, passée sous silence, totalement sous silence, et pour cause, puisqu'il s'agit de la défaite du parti, de la presse et de l'argent, c'est-à-dire la défaite médiatique. Et oui, la victoire du non, c'est également une grande victoire sur les médias. Parce qu'il ne va pas falloir oublier que pendant des semaines et des semaines, les médias ont matraqué, insulté, méprisé le peuple. La grande leçon de ce référendum s'adresse à toutes ces militants et militantes qui ont effectué un petit travail de fourmi pour informer la population sur les dangers de ce traité. Au début, on aurait pu croire, face à l'arsenal médiatique, que la partie était perdue. Eh bien non, cette victoire, c'est la preuve de l'impuissance médiatique, que la lutte peut s'organiser en dehors de la sphère médiatique, qu'il ne sert à rien, mais strictement à rien, de courir après les médias. Alors pitié les tenants du non, pitié. Il est important de ne pas retomber dans la déférence face à l'élite médiatique. Au contraire, il ne faudra pas hésiter à dénoncer la compromission des médias face au pouvoir de l'argent. Voilà, Daniel, pour moi, cette victoire marque le déclin du pouvoir médiatique. Je suis fier de vivre dans un pays qui a su dire merde à l'élite médiatico-politique qui nous chie dessus à longueur de journée. Pour une fois, c'est l'inverse qui s'est produit. Stéphane de Rouen. Ciao.
Le président de la République, Jacques Chirac, devrait intervenir ce soir et s'adresser aux Français.
Le discours de Nicolas Sarkozy est attendu ici, peu après 20h.
Il est très probable que le président de la République interviendrait, surtout si le résultat est très net, pour le oui ou pour le non, dès que le résultat sera connu.
Voilà, information à retenir en tout cas. Le président de la République, Jacques Chirac, devrait intervenir ce soir. Et
le jour le plus non, le grand soir, le 29 mai. Sur les antennes, vous avez entendu, réentendu, la France était hier scotchée, collée sur le, devant les petits écrans. Et mais quelques-uns quand même ont pris leur téléphone et ont appelé le répondeur de la base où j'y suis. Et c'est pas les mêmes mots, et c'est pas les mêmes idées, et c'est pas le même langage, et c'est pas les mêmes choses que ce qu'on entendait, ce qu'on voyait à la télé. C'est simplement ce petit fossé qui illustre cette heure que nous passons ensemble aujourd'hui.
En direct de Grenoble, nous arrivons à la préfecture et c'est un moment où les citoyens concernés, en tout cas, nous sommes regroupés pour manifester notre joie.
Oui, salut Daniel, ici Attaque Strasbourg, on veut pousser un cri d'enthousiasme pour la victoire du Nord.
Allô, c'est encore moi, je sais pas si vous m'entendez. Je viens trouver un mec au Place Saint-Michel qui prétend s'appeler Antoine Chao. Voilà, tu veux dire bonjour à Daniel?
Oui, je confirme, voilà, je suis avec notre ami là ici sur la place, donc c'est la Place Saint-Michel, une des dernières places populaires dans le centre de Bordeaux. Voilà.
30 mai à 0h53.
Voilà, je suis Jacqueline de Sablan, je vous téléphone de Bruxelles et je voudrais dire un grand merci aux 55% de Français qui ont voté non. Si on nous avait demandé notre avis en Belgique, je ne sais pas s'il aurait été positif, mais malheureusement, on nous prend pour des crétins. Alors, encore un grand merci, au revoir et bonne continuation à vous.
Yeah, bah Marseille, les hommes fumés, motivés. C'est merdé là, les îles, c'est merdé. La gueule, il va couler à plein sur le secteur maintenant. On va leur mettre le feu. Ça y est, c'est le début de la grande soirée là.
Voilà, nous sommes à 8 minutes, 7 secondes, 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner donc le résultat. C'est le non qui l'emporte à ce référendum sur le projet de constitution européenne avec 54,5%. La France a donc dit non à ce projet de constitution. C'est une première
élection. C'est une victoire pour nous. En principe, à 22h15, c'est déjà lancé.
Les résultats à Marseille, en public, avec le public, et le résultat tel qu'il a été présenté sur les chaînes de télévision de façon rigoureusement identique. Simplement, les visages étaient plus ou moins terreux pour ceux qui, pendant des semaines, il faut les comprendre, se sont échinés à militer, à défendre le oui, à imposer le oui à ces imbéciles de Français. Eh ben voilà, ça n'a pas marché, mais on avait compris avant, évidemment, 22h, en voyant les mines déconfites, agacées, déçues, attristées, face à ce tsunami qui est considéré comme un tsunami, comme s'il s'agissait d'un coup d'orage dans un ciel calme, comme si rien n'avait pu annoncer, rien n'avait permis de prévoir ces réactions et ce vote et ce refus, ce rejet de la majorité de Français devant une telle proposition et un tel choix. On continue avec ces sonorités, ces couleurs d'hier, avec un zapping.
D'abord, voyons comment se présente cette soirée, comment on va vivre cette soirée du côté de Matignon et d'abord de l'Élysée. Quel est le programme, tout simplement, pour Jacques Chirac ce soir?
Le président de la République attend donc les résultats. On lui communique au fur et à mesure toutes les informations qui peuvent tomber.
Merci beaucoup, Véronique. Direction Matignon à présent.
La principale information ici ce soir, c'est qu'une dizaine de ministres se trouvent autour de Jean-Pierre Raffarin. Ces ministres vont d'abord prendre connaissance des résultats, sans doute roder leurs arguments avant de rejoindre les plateaux de télévision.
On va maintenant passer cette fois rive droite, rue de la Boétie, très précisément au siège de l'UMP.
Eh bien écoutez, comme au siège du Parti Socialiste, avec énormément de journalistes, c'est du jamais vu ici à l'UMP, 253 journalistes accrédités, dont un tiers de journalistes appartenant à la presse étrangère.
Oui, alors ici il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, beaucoup d'élus qui attendent effectivement les résultats, qui se les communiquent partiellement.
Dont deux tiers de journalistes étrangers. Ici, on n'a jamais vu ça. Il y a également aussi quelques militants, vous pouvez sans doute apercevoir.
Donc beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, ce qui explique que les militants n'aient pas été conviés à cette soirée, faute de place. Alors je vous l'ai dit, beaucoup de monde.
Alors on l'a compris, de nombreux confrères européens sont présents dans les QG, et à la fois du PS et de l'UMP. Là, l'Europe nous regarde.
Et parmi eux, deux tiers de journalistes étrangers.
30 mai, à 3h20.
Oui, on a la permanence du PS. Allô? On est où? J'étais dedans?
Dans nos culs!
On a gagné!
On a gagné! On a gagné!
Salut Bernet!
Et bien justement, la permanence du Parti Socialiste, on y va et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va rencontrer à la permanence du Parti Socialiste? On nous l'a annoncé, on nous l'a re-annoncé, on nous l'a sur-annoncé. Il y a des journalistes, il y a beaucoup de journalistes. Toutes les chaînes nous annonçaient qu'il y avait beaucoup de journalistes. Et c'est normal, après tout, que les journalistes parlent des journalistes et s'étonnent qu'il y ait beaucoup de journalistes. C'est normal que un monde social sache parler de son propre monde et de sa propre boutique. Et parmi ces journalistes, il y avait François Ruffin, au siège du Parti Socialiste, et il a commencé par rencontrer un autre journaliste.
Donc là, on se trouve au siège du Parti Socialiste. Alors au départ, je me demandais ce que c'était. Je savais que les journalistes étaient plutôt oui-ouistes. Mais là, je voyais tous les journalistes portant une caméra ou portant un petit carnet ou avec un micro, avec un badge marqué « oui » dessus. C'est le seul qui ne l'avait pas, c'est toi, Mathieu, qui travaille à Libération.
Ben oui, moi j'étais hyper étonné aussi en arrivant parce que j'ai vu qu'il y avait un gros « oui » rouge sur le badge et j'ai compris qu'il y avait juste écrit le mot « presse » en jaune sur le côté. Et donc j'ai refusé de le porter en disant que nous, notre position de journaliste, c'est pas d'être ni pour le « oui » ni pour le nom, c'est d'être là des médiateurs de l'info, quoi. Et donc j'ai refusé de le porter. Je me suis heurté à une agressivité mais incroyable du service d'ordre du PS et de 2-3 organisateurs qui m'ont dit ou tu le portes ou tu te barres. Donc j'ai refusé de le porter. Je l'ai plié en deux. J'ai laissé juste le mot presse apparaître et j'ai regretté de pas avoir le badge de Florence Aubenas et de Hussein Hanoun pour le mettre à la place. Et je trouve que ça effectivement c'est affiché encore cette collusion entre les élites politiques et les élites médiatiques que je trouve ça extrêmement déplacé, quoi. Et ça déplacé et l'agressivité qui m'a été opposée m'a véritablement choqué.
Tu vois que c'est un signe annonciateur de ce qui va se passer au sein du Parti Socialiste, où t'as voté oui ou tu te barres?
Ils sont très très nerveux, ça va être la nuit des longs couteaux, c'est clair, ouais.
Donc là on se trouve au siège du Parti Socialiste avec Austin et Stéphane, vous êtes tous les deux des militants socialistes?
C'est ça, oui. Sympathisants.
Ceux qui ont milité ouvertement pour le nom, tels qu'Emmanueli et Fabius, auront des comptes à rendre, en fait, c'est pas possible. Ils ont vraiment pollué le débat et ça, c'est inadmissible.
En 2002, déjà, les Français avaient désavoué la politique du Parti Socialiste, en un sens. Là, c'est la deuxième fois que le PS se trouve complètement... Alors, je sais pas, il faut changer de peuple, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout à fait, on a l'impression qu'on est en décalage par rapport aux classes populaires. Et c'est pas normal que maintenant, l'électorat ouvrier, etc., se retrouve davantage dans le FN, dans la Ligue communiste révolutionnaire, dans le Parti communiste, que dans le PS. Ça, c'est vrai qu'il y a un décalage. C'est pas normal, il faut qu'on en discute, il faut qu'on arrive à retrouver un moyen de se connecter aux classes populaires.
Vous faites quoi comme boulot?
Moi je suis consultant en stratégie et...
Stéphane, tu fais quoi?
Je suis dans la banque.
Vous êtes dans la banque, mais employé de banque, comment?
Non, banque d'affaires.
Banque d'affaires. Donc le Parti Socialiste, là, est représenté par un conseiller en stratégie, un banquier d'affaires.
Pas sûr qu'on soit représentatif, mais pour autant, ça veut dire qu'au sein du PS, on peut fédérer des gens d'origine très diverses, en fait.
Apparemment, oui, c'est une défaite écrasante, puisque c'est annoncé à 55%.
Et vous faites quoi, sinon, dans la vie ?
Moi, je suis étudiant en école de commerce, à l'ESSEC. Il y a un sondage qui a été fait, et c'est des 75% des gens qui votaient oui. Et enfin, c'est la question, la première question. Et non, il n'y a pas beaucoup de militants socialistes. Il y en a peut-être un tiers, même pas. C'est plutôt à droite, une école de commerce, ouais.
Et ça te paraît fort compatible, l'ESSEC et le Parti Socialiste ?
Ah bah regardez, Strauss-Kahn qui a fait HEC et qui est au Parti Socialiste.
Et ça vous paraît fort compatible, Strauss-Kahn et le Parti Socialiste ?
Oui, moi ça me paraît compatible. Enfin, je pense qu'on peut... Moi, je pense qu'on peut vouloir avoir une forme de un peu de libéralisme et vouloir atténuer le marché, quoi. C'est illusoire de croire qu'on peut vivre en dehors du libéralisme. Enfin, pour moi, ça me semble totalement illusoire.
Et cette constitution, elle te paraît être un outil pour réglementer le marché ?
Ah ouais, totalement, ouais. Ouais.
Alors, en tant que militant socialiste, quand on inscrit dans une constitution la libéralisation des flux de capitaux, y compris vers les pays tiers, donc y compris avec la Chine, les États-Unis, les Bahamas, ça te paraît une avancée sur le plan de l'économie ?
Ben, ça me paraît pas une avancée, mais je pense que la liberté des capitaux, enfin, de toute façon, moi je pense que la libéralisation des capitaux, de toute façon, enfin, la liberté, c'est quelque chose qui est fondamental. Sans la liberté des capitaux, ça veut dire quoi? S'il n'y avait pas la liberté des capitaux, moi je pense que, enfin, l'Europe, elle serait à un niveau qui m'est mille fois plus faible.
Eh oui, c'est tout le débat entre le libéralisme social et le socialisme libéral. Que choisir? Et la question se pose évidemment au sein du Parti Socialiste. Et dans le texte de la Constitution, on avait quand même remarqué dans les tout premiers articles, l'économie sociale de marché. L'économie sociale de marché, ça a quand même pas mal frappé les imaginations, posé bien des questions et engendré pas mal de réflexions qui ont abouti à ce qu'on a vu hier soir. Voilà, au siège du Parti Socialiste hier à Paris, la réaction et les réflexions d'un militant britannique.
Mon nom est Miles Barrett, je suis britannique et je suis militant PS et ancien permanent de la rue de Solferino au secteur économique. Je suis aussi membre du Labour en Grande-Bretagne, à Londres.
Alors, ce qui a surtout effrayé la gauche, y compris la gauche du Parti Socialiste, c'est quand même la partie 3, qui est une partie qui était très, très clairement marquée libérale.
C'est tout à fait vrai, mais le problème, d'abord, déjà, on est dans un monde qui est extrêmement libéral. Aujourd'hui, on n'a pas de voix dans le monde d'aujourd'hui si on n'est pas plus ou moins en rapport avec le business. Donc, d'une façon ou d'une autre, le article 3 s'inscrivait dans son temps, à son époque. Ça ne veut pas dire que cela ne permet pas à l'avenir d'avoir une politique qui soit maintenant moins libérale, beaucoup plus sociale par rapport à la viabilité des uns et des autres.
Par exemple, ça a pu paraître un peu absurde que la libre circulation des capitaux, y compris avec les pays tiers, donc ça veut dire y compris avec les États-Unis, avec la Chine, avec les Bahamas, soit inscrit dans la Constitution, voire également dans la Charte des droits fondamentaux. En quoi la libre circulation des capitaux est un droit fondamental ?
La libre circulation des capitaux, pour moi, n'est pas un droit fondamental, mais permet d'une certaine manière de garantir un modèle qui peut-être par stratégie permettait de rassurer, on va dire, une droite libérale, une droite des investisseurs qui naturellement serait tout à fait hostile à un projet constitutionnel qui risquerait de mettre un cadre fort, d'encadrer trop fortement le libéralisme. Si dans 10 ans, énormément de gens à travers le monde estiment, et aussi bien au sein des classes politiques partout, que le libéralisme a abouti a eu des conséquences véritablement tragiques et catastrophiques, à ce moment-là, énormément de choses seront modifiées dans le reste du monde et en Europe, bien entendu.
Alors, vous savez, le problème, c'est qu'en 92, quand on a mis le traité de Maastricht, on a dit, mais derrière, vous aurez un traité social. Avec le traité d'Amsterdam, on a dit, mais derrière, vous aurez un traité social. Là, on met le traité constitutionnel européen, qui est clairement libéral, et on dit, mais derrière, vous aurez un traité social.
À ce niveau-là, je comprends la réaction de la gauche qui a voter non là-dessus, ne croyant plus en ses promesses. Mais il faut aussi voir que depuis 92, le libéralisme n'a cessé d'avancer et que d'une certaine manière, tout ce qu'on a pu faire, c'est véritablement traîner les pieds face au libéralisme, faute de faire mieux, faute de pouvoir résister comme on souhaiterait le faire. Mais justement, en prenant part à la discussion pour éventuellement montrer qu'il y a une voie et il y a une solution autre que purement le libéralisme ou un libéralisme déguisé tel qu'on le voit introduit par exemple en Grande-Bretagne.
Mais c'est un peu ce qu'on a le sentiment quand même. En France, on a eu le sentiment que c'était du libéralisme déguisé, que quand on garantissait le plein emploi, ça tenait en une ligne et on n'expliquait pas comment on allait parvenir au plein emploi. En revanche, que pour ce qui est de la garantie sur la libre circulation des capitaux, on expliquait très bien et très longuement comment elle était garantie, cette libre circulation des capitaux.
Je pense que effectivement, je pense qu'il y a un déséquilibre et que le traité avait une tendance à aller dans le sens des affaires, parce que ce sont les affaires qui dominent le monde en ce moment, mais que c'était la seule façon d'amener les classes politiques européennes dominées par les affaires, dominées par la droite et dans un monde dominé par le libéralisme, le seul moyen de les amener à signer quelque chose.
Alors, Madame Sophie, tout à l'heure, on a pris un casse-croûte ensemble. Vous avez milité il y a longtemps au Parti Socialiste ?
Il y a très longtemps. Hein. Mitterrand n'était même pas encore au Parti Socialiste. Il devait y avoir Guy Mollet, compagnie, tout ça, vous voyez. Bon, hein.
Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces résultats, de tout ce qui se passe là ?
Je dis que c'est très bien. Ici, au Parti Socialiste, ils le méritaient. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris encore. Ils n'ont rien compris parce que je les trouve extrêmement intolérants envers leurs compagnons du nom. Au passage à la télé, Emmanueli, cette espèce d'idolâtrie pour Hollande.
C'est quand même quelqu'un qui soulève l'enthousiasme, Hollande, naturellement, non ?
Moi, non. Excusez-moi, j'ai rien contre lui, mais non.
Est-ce que vous aussi, vous avez un sentiment d'avoir un échantillon représentatif de la France au siège du Parti Socialiste ?
Non, alors là, pas du tout. Bon, ça fait un petit peu gauche caviar, hein, ici. Sans le caviar, peut-être.
Mais tout à l'heure, il y avait un banquier d'affaires, il y avait un conseiller en stratégie financière, il y avait un élève qui sortait de l'ESSEC, l'École supérieure de commerce, un autre qui avait fait Sciences Po et qui travaillait au ministère de la Défense.
Bah, si c'est ça, c'est peut-être ça le militant socialiste, c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu. Il y avait autrefois des vieux militants, je crois, socialistes, qui étaient peut-être pas du tout instruits, ils n'avaient pas fait les grandes écoles, mais il y avait ce côté-là. J'ai l'impression qu'il n'existe plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup les ouvriers, les paysans. C'est peut-être ça qui a fait passer vers l'extrême gauche. Ils ont dû passer vers l'extrême gauche.
François Hollande, le premier secrétaire du PS, est arrivé ici rue Solferino autour de 19h30.
Nicolas Sarkozy qui est présent ici bien évidemment. Le président de l'UMP est arrivé vers 17h30.
Alors François Hollande lui est toujours dans son bureau au premier étage avec sa garde rapprochée. Il s'est enfermé dans son bureau au premier étage au-dessus de moi et depuis on ne l'a plus revu.
François Bayrou est arrivé dans l'après-midi, il s'est enfermé dans son bureau avec des proches. On ne l'a toujours pas revu.
Les informations parviennent ici au dernier étage de la rue de la Boétie où Nicolas Sarkozy est enfermé depuis plusieurs heures avec les principaux membres de sa direction.
François Bayrou lui est enfermé dans son bureau avec son staff.
Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, est arrivé en fin d'après-midi aussi au siège. Il s'est enfermé avec son staff et puis il a animé une réunion de la direction.
Est-on dans le même cas de figure à l'UDF ?
Direction à présent le bureau de Philippe Devilliers.
Allez, on va au Front National maintenant.
Est-ce que l'ambiance est tout aussi bon enfant du côté du Parti communiste ? Direction l'UMP à présent.
Merci Stéphane. Voilà, à chacun ses démonstrations, à chacun bien sûr ses mines réjouies ou au contraire déconfites. Mais rappelons-le, pour l'instant, il n'y a rien avant 22h.
François Hollande, le premier secrétaire du PS.
Ça a été dur, ça a été très très dur d'attendre ce fameux 22h avec tous ces gens enfermés dans leur bureau et ceux qui manifestaient ou leur déconfiture ou leur plaisir. Mais on sait maintenant que c'est une embellie tout simplement. Une embellie pour une fois, c'était un des mots qui avait été employé pour le Front Populaire en 1936, une embellie, et qui dit qu'on ne perd pas toujours. Et aujourd'hui, quand même, dans l'équipe de la Basse, on a une pensée, hier soir, on avait une pensée pour tous ceux que depuis des années, nous rencontrons, ceux de Moulinex, ceux de Metal Europe, ceux des filles de Lewis ou ceux de d'Uni Le Vert, pour ne penser qu'à eux, qui ont dû quand même sentir hier soir comme un allègement de leur peine. Et on a une pensée fraternelle, cordiale pour tous, et on les remercie de nous avoir pendant des années avoir fait de nous parfois leur porte-parole. On continue avec des paroles que vous allez confier au répondeur, le répondeur de la Basse, j'y suis depuis hier soir. Je rappelle le numéro, mais vous le saviez, 01 56 40 37 37.
C'est terrible, ça. Les dirigeants français de tous bords n'ont pas le peuple qu'ils souhaitent. Ils le voudraient obéissant, soumis, résigné, et le voilà qui dit non. N'en viennent pas les dirigeants de ce mauvais élève qu'ils continuent aujourd'hui à réprimander. Mais ça s'appelle un déni de démocratie. Eh bien, si c'en est là, pour porter ce nom de révolte et d'espoir, il faut en appeler à de grands rassemblements, confirmés dans la rue, ce qui a été démontré dans les urnes. Les Français veulent une politique européenne plus sociale et une politique française plus à gauche, pour une Europe plus juste et une société plus humaine. Si c'en est là, il faut manifester.
Bonjour, c'est Françoise. Je sais pas vous, mais moi je suis confusément touchée. Oui, satisfaite bien sûr de ce résultat. Mais si profondément attristée qu'il nous ait fallu, pour être entendu, balancer un non. Pourtant, on le sait, ce n'est pas un non à l'Europe, mais à cette Europe des marchés et de la finance qu'on construit sur notre dos depuis des décennies. C'est dur, non, de dire non à quelque chose de rêvé mais jamais atteint. Oh, il ne s'agit pas de culpabilité de celle que, bien entendu, certains voudraient nous faire porter. Non, je parle d'une tristesse, d'une fatigue, parce qu'il va falloir encore et encore rester vigilant et nous battre. Peut-être pour ce qui, un jour, ne sera plus une utopie. Ben, avec le oui, c'était marche ou crève. Avec le non, c'est rêve et agis. Agis et rêve.
Allô Daniel, c'est Pierre de Saint-Malo. Je comprends pas, on est lundi matin, je pars au boulot là, et puis c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe?
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis très heureux parce que on est le 30 mai et c'est mon anniversaire. Et je voudrais passer un petit message. Je remercie tous mes concitoyens pour le cadeau qu'ils m'ont fait pour mon anniversaire, en se constituant comme des vrais citoyens. Et en rejetant cette constitution de merde qui nous était proposée. Et ça fait plaisir. Parce que là, franchement, on a eu un bourrage de crâne, quelque chose de bien. Et là, les gens ont réfléchi, se sont rassemblés. Et ont étudié cette constitution et l'ont rejetée. C'est quelque chose de citoyen qui a été fait. Et ça me fait vraiment plaisir. Allez, salut.
Alors, un autre monde passant, il n'est pas sans importance pour la ville de Marseille. On nous annonce 63% pour le maire. La commune du Rose nous annonce 85% de votants pour le maire. Alors, chers camarades, une info directe live de sommaire, où tous les camarades sont réunis de la faute, la fête et nous adresse un salut amical. Remarque, il paraît que voir l'étrange qui font l'intérêt, ils connaissent déjà le prix du sang et des larmes.
Et il nous arrive un direct live de septembre les ballons, avec un soir.
La commune du Rose nous annonce 87%.
Résultat partout en France. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'une certaine fierté dans les propos, dans les mots qu'on a entendus, les mots qui ont été laissés sur le répondeur de la basse si j'y suis, des gens qui ont quand même qui se sont battus. Il en a fallu du courage, il en a fallu de l'énergie, il en a fallu de la motivation pour résister et surmonter tous ces obstacles, toutes ces intimidations, tous ces processus de d'inhibition, de chantage fait à ceux qui avaient envie de protester tout simplement, non pas pour des forcément pour des idées ou des engagements bien précis, mais à cause de ce qu'ils vivaient ou à cause de ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu ou qu'ils craignent de vivre dans ce monde tel qu'il va.
Bon, ben je vais vous dire les choses comme je les ressens. Un bon coup de pied au cul d'abord, ça fait du bien de le donner. Et ensuite, ça fait du bien d'envoyer l'onde de choc sur les tronches déconfites des élites de la droite et de la gauche caviar, qu'elles soient d'ailleurs politiques ou syndicales. Ils n'en revenaient pas qu'on n'aurait pas obéi à eux qui savent, à eux qui pensent, à eux qui décident pour nous, à eux qui nous ont insultés en nous assimilant aux nationalistes et aux xénophobes. À eux qui ont voulu nous mettre dans un shaker. Quelle horreur, ce mot shaker. Ça, c'est encore un ustensile qu'on utilise dans les milieux de la gauche caviar, pas dans les milieux populaires. Nous, à Marseille, on a plutôt le mortier pour faire l'aïoli. À eux, les dirigeants syndicaux européens et de la CFDT, qui ont dit oui sans consulter leur base. À eux tous, qui nous ont pris pour un troupeau béant. Nous leur avons dit ce 29 mai, il ne s'agit pas de changer de berger, qui s'appelle Raffarin, Villepin, Sarkozy et même Hollande. Il s'agit tout simplement de cesser d'être des moutons.
Ouais, salut toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Par rapport au résultat du scrutin sur le référendum, je voulais quand même, j'ai écouté hier soir tous les responsables politiques, les commentateurs, les chroniqueurs, les journalistes, et ce matin sur France Inter également. Je voudrais simplement quand même rappeler une chose. C'est pas d'abord un nom à Chirac ou à Raffarin. Ça, on verra ça en 2007. Là, je crois que les gens, ils ont dit non au traité, à M. Giscard notamment, s'il faut donner un nom. C'est non, et je crois que les gens, ce qu'ils veulent vraiment, bah, c'est une constitution qui soit faite sur une base démocratique. Donc, à la Commission européenne, au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, au Conseil européen, d'organiser au niveau européen, y compris les nouveaux entrants, eh ben, des élections législatives européennes pour établir une assemblée constituante européenne qui rédigera une constitution et pas un traité constitutionnel, une vraie constitution, qui sera soumise de nouveau à référendum à toute l'Europe entière. Et là, il y aura un processus démocratique et peut-être que là, les gens diront oui. C'est pas impossible, hein. Mais il faut oublier Chirac et Raffarin. De toute façon, ils vont se faire bananer. Chirac, il va se faire bananer en 2007. Ça, c'est sûr, certain. Donc, il faut arrêter de... De toute façon, d'ici 2 ans, la politique sera la même. Voilà. Alors, j'embrasse tout le monde. Il faut pas baisser les bras. Et surtout, il faut que les gens continuent à voter. Hein. 30% d'abstention. Moi, j'avais pas vu ça depuis un certain temps. Voilà. Et c'est encourageant.
Eh bien, hier soir, c'était pas encore le grand soir. Mais c'était quand même un bien beau soir. Alors maintenant, il faudrait que toutes les peaux de vache, les peaux de murge, les peaux de fesses, les pots de sauce, ah, les pots de sauce. Eh bien, il faudrait qu'ils foutent le camp avec tous les béni-oui-oui des médias qui se sont déshonorés pendant toute cette campagne. Oui, il faudrait que les pots de vache, les pots de murge, les pots de fesses, les pots de sauce, ah, les pots de sauce, eh bien, ils se délocalisent, qu'ils aillent vivre dans leurs paradis fiscaux pour jouir pleinement de la libre concurrence non faussée, de la rentabilité outrance, de la course au profit effréné, mais qui se mangent les uns les autres pour qu'il n'en reste plus, pour qu'on puisse vivre dans une Europe de paix, de justice, une Europe respectueuse des hommes, de leur environnement, une Europe qui respecte les principes d'égalité, de solidarité de tous les citoyens. Oui, c'est véritablement le début, mais il faudra véritablement continuer le combat. Et aujourd'hui, on a du courage et de l'espoir. Salut à tous.
Non. Non. Non.
Oui.
C'est bon aussi. Non. Non.
Voilà ce qu'on pouvait entendre sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, avec un reportage de François Ruffin au siège du Parti Socialiste à Paris et un zapping télé de Guy Ventil. C'est un reportage qu'il a fait chez lui devant sa télé. Et puis des sons rapportés de Marseille par Pascariello. Merci à tous. Les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. On a appris que vous avez été très très nombreux à aller sur ce site pour consulter l'extrait de l'entretien avec Frédéric Lordon. Technique Jessica Fouchet et Patrick Henry. Réalisation Antoine Chao. L'équipe de là-bas si j'y suis, c'est aussi Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert qui a eu beaucoup de boulot. Vous lui avez donné vraiment beaucoup de travail à notre Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Je rappelle aussi le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. dans 32 secondes de réclame, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau. Nous on se retrouve demain à 17h pour la Bassivie. Salut.